c'est 9h midi, les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, la radio, la télé, le débat avec vous au 32-16. La première heure des Grandes Gueules est d'ores et déjà disponible sur les podcasts. C'est sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Et vous pouvez trouver aussi sur les podcasts les petites anecdotes, le vécu des Grandes Gueules. Bon, là, c'était les souvenirs de boîtes de nuit qui étaient racontés par les GG et glanés par Anaïs Sens. Mais ça, vous les trouvez sur les podcasts. Alors, d'ici midi, dans les Grandes Gueules, à 11h20 tout à l'heure, on reparlera de l'ennemi public numéro 1, Mohamed Amra, qui menait son business en prison. C'est ce que révèlent les écoutes pénitentiaires. Est-ce que c'est même cette histoire, c'est la faillite de l'administration pénitentiaire? On en reparlera avec le secrétaire général de FO Justice, qui est surveillant pénitentiaire lui-même. Il sera en plateau avec nous à 11h20. 11h20, le chômage. C'est à la fin de la semaine que le gouvernement va détailler ses mesures pour durcir les conditions d'indemnisation. Est-ce qu'il faut les durcir ou non, ces conditions d'indemnisation? Alors, on a un oui réfléchi de Antoine et Jérôme, mais on a un non de la part de Joël. Vous venez en débattre au 32-16. 10h20 tout à l'heure, 30 km/h partout en ville. Vous venez nous dire ce que vous en pensez. Mais on va prendre un quart d'heure d'abord pour regarder un peu ce que prépare le gouvernement concernant la délinquance des mineurs.
RMC, les Grandes Gueules.
Oui, la délinquance des mineurs, c'est le Premier ministre Gabriel Attal, qui a terminé tard hier au soir, mais qui s'est levé tôt ce matin pour aller du côté de la Drôme. Et qui veut mettre en place un certain nombre de dispositifs, de mesures. Alors vous allez les entendre au fil de la journée, mais enfin il y en a une qu'on peut déjà commenter ensemble au 32-16. En ce qui concerne les mineurs qui ont commis des délits répétés et on dit assez sérieux, notamment de violence physique, eh bien pour eux ce sera le séjour en foyer. C'est ce que font les Pays-Bas. C'est le séjour en foyer 7 à 14 jours. En foyer avec, outre le séjour, une rencontre avec ce qu'on appelle une figure d'autorité, une rencontre avec une assistante ou un expert, peut-être médical, pour déterminer le profil psychologique du jeune. Alors le séjour en foyer 7 à 14 jours pour le délinquant qui se livre à des violences physiques, on évite donc la casse-prison. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? 32-16 pour en parler avec les GG. Antoine?
On sent qu'ils veulent pas les mettre en prison. Ils disent non, on le met pas en prison. Donc ils inventent cette espèce de truc de foyer et bah moi je trouve ça pas mal. C'est-à-dire que je serais prêt à les mettre en prison tout de suite, mais il faut que au moins il y ait une réaction, ouais. Un truc qu'on fasse comprendre aux jeunes tout de suite que c'est pas possible de tolérer ce qu'il a fait. Donc il est pris, il est mis dans cet endroit-là, bonne chose. Ensuite, dans un langage très macronien, on nous dit il y aura intervention d'une figure d'autorité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une figure d'autorité? Si c'est un ancien légionnaire qui arrive et qui dit « Alors le gamin, tu arrêtes de déconner ou je te mets tarte là, pourquoi pas la figure d'autorité? »
Le légionnaire vient d'Europe de l'Est.
Souvent, tu vois. Ou alors, si c'est un éducateur un peu gauchiste qui arrive et qui dit « Non, mais je comprends ton mal-être, etc. » Voilà, c'est pas la même figure d'autorité. Donc vraiment, moi je dis, pourquoi pas, tentons-le, mais dans la version légionnaire courva. Je vais te mettre une grosse tarte si tu continues.
D'accord, Joël.
Légionnaire de gauche.
Bah, moi, franchement, je
crois que... Direct du gauche. Pardon.
Le volontarisme de Gabriel Attal est vraiment à féliciter. Voilà, on verra après sur les résultats, mais en tout cas, il y a une volonté quand même de faire quelque chose, de mettre des mesures en place. Je suis un peu comme Antoine sur ce plan-là. La figure d'autorité, j'espère que ce sera une vraie figure d'autorité et que c'est pas juste on a mis un adulte. Parce que rappelez-vous, pour l'éducation nationale, lorsqu'ils disaient que ils allaient faire des remplacements de profs absents, c'était juste pour mettre un adulte en face des élèves. Enfin, moi, je voudrais que ça ait du sens et que ce soit réellement une figure d'autorité. Et puis ensuite... Malheureusement, je suis assez triste en fait pour cette jeunesse parce que on en parle comme ça, les délinquants par-ci, les délinquants par-là, mais on est dans une jeunesse qui souffre et ces mesures-là.
Qui est de plus en plus violente aussi. Quand
oui,
même.
Oui, mais d'accord, mais quand même.
Je suis pas sûr que ce soit ceux qui souffrent, les délinquants.
Oui, mais non, mais ouais. Écoute, enfin, je veux dire, quand tu deviens délinquant, on peut pas dire que non plus t'es super équilibré dans ta tête. Voilà, tout va bien pour toi. Donc je dis pas que
se positionner en victime, c'est déjà dangereux, Joël. C'est pas des victimes.
On a une jeunesse qui souffre, Antoine. On a
une augmentation
des tentatives de suicide dans notre pays et une augmentation des idées suicidaires. C'est quand même à noter. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur les mineurs de ce pays. Donc moi, je le demande à voir. J'ai pas vraiment de jugement sur ce qu'il a mis en place. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais comme c'est l'État français et que je leur fais pas hyper confiance sur au niveau efficacité, donc je demande à voir.
Jérôme,
moi je comprends pas. Je vais être clair, quoi. Ben, ah oui. 7-14 jours, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait après?
Un peu
qu'on fait derrière? On nous dit il y a une figure tutélaire en quelque sorte qui va venir, et puis il y a un expert qui va venir aussi pour déterminer ce qui a dysfonctionné chez ce gosse et pourquoi il fait ça. S'il a des problèmes sociaux, s'il a des problèmes psychologiques, etc., etc. 7 jours, ça me paraît très court. Cette étude.
Surtout que ce jeune, et puis, on dit bien que sont des jeunes qui auront déjà été auteurs de violences.
Voilà. Alors, physique et répétée. Donc, c'est dire, c'est quand même.
Ce sera, on verra la gradation. Donc, il est sûr que si t'as physique mis quelqu'un physique à terre et que tu l'as tapé dans la tête plusieurs fois, je pense que tu passeras par la case prison. Mais enfin,
on te dit plus de 16 ans aussi, on les juge de suite.
Ouais.
Bon, ça, c'est une bonne chose. Mais après, les autres, 7 jours, 14 jours, je sais pas ce que ça veut dire. Et puis, on nous met pas, la ligne importante qui est en face, c'est les moyens. Donc si c'est juste un effet d'annonce, mais si on ne donne pas les moyens, et on sait que les centres éducatifs fermés, etc., manquent de moyens aujourd'hui, donc moi j'ai peur des effets d'annonce.
Ce que je piche pas, c'est qu'on n'arrête pas d'entendre justement des magistrats, quand même des éducateurs, des riverains, des policiers, nous dire qu'on a cette préadolescence ou cette adolescence jusqu'à 16 ans, jusqu'à 18 ans, t'es considéré comme ado aussi, qui est de plus en plus violente, qui est de plus en plus incontrôlable. Alors, je fais une généralité, mais enfin, c'est quand même un constat. Alors là, on dit, passe par la case foyer. Alors, si c'est pour aller en prison avec, en étant dans la cellule à côté de Mohamed Amra, je peux comprendre. Mais la case foyer, si c'est pour avoir juste un entretien, est-ce que tu désamorces cette violence? Est-ce que c'est suffisant?
Mais non,
alors, je suis pas sûr que même en étant avec un légionnaire pendant 7 à 14 jours.
Tu te couches tôt, tu te lèves à 6 heures.
Oui, mais 7 jours, 8 jours.
7 jours, c'est un peu court.
On dirait le truc, on dirait le service.
Faut que Pascal Legrand, frère.
Est-ce que quand tu désamorces la bombe à retardement, est-ce que tu désamorces la violence?
Non, parce que le problème, c'est qu'on lutte contre quelque chose. Et je vous assure que lutter contre et lutter pour, c'est pas la même chose. Lutter contre, ça veut dire que je viens à la fin du processus. Ah bah, il a eu de la violence répétée, etc. On met de la prison en place, on met des foyers, etc. Quand tu luttes pour, tu viens, t'assures que ton focus, ton œil est tourné vers la cause réelle. Donc, tu vas mettre des moyens, par exemple, sur l'aide sociale à l'enfance, qui manque cruellement de moyens. Tu vas mettre des moyens sur le recrutement d'éducateurs. Tu vas mettre des moyens sur les psychologues. Tu vas mettre des moyens sur la psychiatrie, sur les hôpitaux. Tu vas mettre des moyens sur l'école. Et en fait, et le problème, c'est qu'ils sont toujours en train de lutter contre, et c'est pour ça d'ailleurs, on verra pour le chômage que je suis dans cette position, c'est que lutter contre, ça ne donne pas autant de résultats que lutter pour. Et il serait temps qu'ils aillent...
Alors comment tu luttes pour, là, avec les jeunes?
Lutter pour la jeunesse, tu vois, et ben c'est bien ce que je te dis. C'est mettre des moyens sur la psychiatrie, la psychologie, l'éducation, sur l'aide sociale à l'enfance, sur les familles. En fait, tout ce qui fait un tissu, tout ce qui tient le jeune. Et aujourd'hui, quand tu regardes la plupart de ces postes-là, sont en manque de moyens, en manque d'effectifs. Et aujourd'hui, on nous dit, moi, je crée un foyer avec une figure d'autorité, je crée 7 à 14 jours, etc. Enfin, ça arrive en bout de chaîne.
J'entends ton raisonnement. Je pense que le truc qui manque, c'est la capacité pour des jeunes de 16 ans de bosser, d'aller gagner de l'argent. Et qu'une partie de la délinquance est peut-être liée au fait qu'ils veulent de l'argent. Et donc, ils en gagneront pas autant qu'en faisant du trafic de drogue, etc. Mais si on facilitait, si on soutenait les petits boulots, si l'été on permettait aux gamins de travailler un mois et de se faire 1 500 € en un mois de boulot, peut-être que ce serait une part de réponse.
Mais là, il est fait un appel à l'après-midi.
Moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, j'avais 16 ans, j'essayais de travailler l'été, c'était difficile de trouver un job. Donc, peut-être que là, il y a une piste. Trouvons des petits boulots pour nos jeunes.
Nous sommes avec Malik. Bonjour Malik.
Bonjour, soir, les jeux. Bonjour, les jeux.
Bonjour, éducateur spécialisé, je vous en prie, en Moselle. Est-ce que c'est la bonne idée, ce foyer, alors?
Ben, écoute, à vrai dire, je suis tout à fait d'accord avec Joël. C'est exactement ça. Je ne veux pas dénigrer Antoine ni M. Marty, que j'apprécie énormément aussi, parce que le peu de temps qu'on le voit à l'antenne, je trouve qu'il est assez juste, même Joël, même Antoine, si ce n'est pas le même bord politique, mais il n'a pas tort sur le travail. Mais en soi, comme j'explique à votre collaborateur, les foyers, ça va pas mener grand-chose, surtout sur un laps de temps de comme ça, 14 jours, c'est pas ça qui va changer la donne, et qui, bien au contraire, moi je pense que c'est plus en amont, comme l'expliquait Joël, Et le modèle social d'il y a 30 ans ne marche plus de nos jours avec la jeunesse. Moi, j'ai plus de 15 ans au sein du social, que ce soit éducateur SP ou quoi que ce soit.
Ils sont plus durs.
Je peux vous garantir que ils sont plus durs. Ok, on le sait, la société est plus dure. Mais moi, je pense que c'est plus dans les codes qu'il faudrait les comprendre et savoir leur centre d'intérêt pour pouvoir avancer les choses. En fait, si vous voulez, quand on discute avec eux, si on voit leur centre d'intérêt et dans, sur quoi ils s'accrochent, je vous assure, vous allez prendre ça peut-être futile, mais la musique a un rôle important.
Ouais.
Ce qui véhicule dans la musique, je vous assure, pour nous, adultes, ça nous paraît dérisoire, on se dit, mais comment c'est possible? Mais moi, pour moi, la musique a un rôle très, très, très important, beaucoup plus que ce qu'on croit. Parce qu'on s'attache à ce modèle de rappeur, il pense
les
que
textes c'est la vie, de rap, quoi, c'est à ça que vous pensez.
Ouais. Oui, c'est tout ce qui véhicule dans tout ça, ce n'est pas bon.
Et l'appartenance.
Voilà, ce n'est pas bon. Et pour moi, je pense qu'il y a les codes et les mœurs qu'il faut changer. On a beau mettre en place des foyers, on a beau mettre en place des éduques, on a beau faire ce qu'on veut, tant qu'on ne changera pas les mentalités et les mœurs dans ces gamins, leur système d'application, on n'y arrivera pas.
Alors,
on n'y arrivera pas.
Tu voulais rajouter
une question. Malik, vous qui êtes éducateur, est-ce que la logique de contact un peu physique avec le jeune, de l'attraper, tout le monde a compris ce que je voulais dire, mais est-ce que vous pensez que ça a des résultats ou pas?
Mais eh bien, écoutez, c'est pas bête ce que vous dites, parce que justement, j'avais soulevé ça lors d'une réunion. Mm-hmm. Je pense que c'est une génération qui a besoin de visuels. Ils n'ont plus besoin d'écouter parce qu'ils n'entendent rien. Ils écoutent, mais ils n'entendent rien.
Oui.
Je me demande des fois si ce n'est pas intéressant de leur dire, écoute, voilà, si tu fais une bêtise, voilà ce qui t'attend.
Boum.
Faire une visite guidée en prison. Ben voilà, si tu continues à fumer, à te droguer, ben voilà ce qui t'attend. Ils ont besoin de visuels. C'est une génération qui sont beaucoup dans le visuel, qui sont tout le temps sur les réseaux, qui sont tout le temps sur...
C'est vrai.
Je pense que ça ne sert à rien, les beaux discours. Les beaux discours, autant adapter, on en revient. Il faut s'adapter à notre temps.
Alors Malik,
très intéressant.
Visuel, leur trouver,
très intéressant. Voilà, merci.
Les repères. On a Draman qui nous appelle de Seine-Maritime. Bonjour Draman.
Bonjour.
Éducateur, vous aussi. Est-ce que le foyer, c'est possible ou pas alors?
Alors non. Moi, je suis éducateur au ministère de la Justice, donc on est directement avec des jeunes qui, quand on commet des délits, sont devant les juges. Et nous, quand on a ce type de déferlement, ben on trouve très peu de place pour les jeunes. Et là, se mettre en place 7 à 15 jours dans toute la France, hein, c'est, pour nous, ça serait impossible. Aujourd'hui, on n'a déjà pas de place pour placer des jeunes, même 6 mois, voire plus.
Donc ça veut dire que là, il y a
placer des jeunes.
D'accord. Ces foyers, pour vous, pour le moment, c'est pas réalisable, quoi. Il n'y a pas la place. Okay.
Bon, non, il n'y a pas la place, c'est pas réalisable. Et puis, voilà, est-ce qu'il y a un intérêt de placer un jeune 7 à 15 jours? Voilà, si un jeune doit être placé, doit être enlevé de sa cellule familiale, c'est parce qu'il y a un danger ou parce qu'il n'y a pas de cadre ou autre, on va le placer 7 à 15 jours et après on le remet chez lui, ça n'a pas de sens. Quand on place un jeune, on réfléchit au profil du mineur, on réfléchit à ses problématiques, quelquefois elles sont multiples, violentes ou autres, avec les parents, et on décide de l'éloigner. Et quand on l'éloigne, c'est travailler. Il y a des CEF pour des plus gros délits ou des multirécidivistes, puis il y a des foyers traditionnels pour des jeunes qui vraiment auraient un profil différent ou auraient commis un petit vol ou quelque chose comme ça. Mais du coup, ça, c'est déjà en place. Et voilà, les présentations pour les jeunes de plus de 16 ans, bah, ça arrive. Dès que c'est des gros délits, les jeunes sont...
Bien sûr, mais pour ces jeunes-là... Alors, Draman, vous nous dites, il n'y a pas la place. Mais ces jeunes-là qu'on ne veut pas mettre en prison, qu'est-ce qu'on va en faire alors? L'idée du Premier ministre, c'est de dire il faut les prendre en main durant 7 ou 14 jours. Alors, on vous les donne, on les met à la Légion. Qu'est-ce qu'on fait d'eux alors pour leur éviter la casse-prison, Draman?
Ils sont pris en main parce que nous, en milieu ouvert, quand le jeune commet des délits, on a des éducateurs qui sont nommés, alors on intervient à la maison. Mais quoi qu'il arrive, quand un jeune commet un délit, il faut savoir sa personnalité. Si un jeune commet plusieurs délits, là, on saura, il aura déjà été pris en charge. Mais si au premier délit, on dit on le place 7 à 15 jours, sans savoir où sont les problématiques, sans savoir qui il est...
Et c'est un suivi derrière.
Là, 7 à 15 jours. Voilà, il faut...
La question,
faut
c'est le suivi derrière.
Voilà, bien. Le suivi, nous, on le met en place, parce que nous, en milieu ouvert, on suit les jeunes. D'ailleurs, là, je suis sur la route pour aller visiter un de mes jeunes, qui, lui, est incarcéré, il a moins de 16 ans.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Du coup, c'est des violences. simplement des violences, et puis il a multiplié
ça
les violences.
Ça doit être lourd, hein, pour être incarcéré à moins de 16 ans.
Il a pas voulu adhérer au placement.
Ah oui.
Au moment où on a voulu le placer, bah, il n'a pas accepté, il a fugué.
Okay. Ah oui.
Et à chaque fois, les fugues l'ont amené, bah voilà,
on à la casse-prison.
On a mis plus de cadres. Et là, du coup,
c'est un gamin qui est déstructuré au niveau de la famille.
Ou pas? Alors oui et non. C'est un jeune qui a vécu des violences parce que les parents savaient sûrement pas comment lui poser le cadre. Et du coup, ils ont été un peu trop violents avec lui. Donc il y a eu un placement avant à l'aide sociale à l'enfance dans le collègue. Et après, évidemment, il a commis des délits. Il est sorti. Il a commis des délits au sein des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Et il est arrivé au pénal.
Et maintenant, il a jamais en prison.
Voilà. Donc les foyers, en plus, ils sont ouverts. Ils sont pas fermés. Il n'y a pas de barreaux. Donc un jeune qui adhère pas, même 7 à 15 jours, il va y aller, il va fuguer. Enfin, il y a aussi toutes ces problématiques
à prendre en compte. Draman, je vous remercie
On n'est pas sur le terrain, c'est difficile de.
Ouais.
C'est difficile d'entendre tout ça quand nous on est sur le terrain.
Merci justement d'avoir apporté votre témoignage, Draman, éducateur du côté de la Seine-Maritime, et puis Malik aussi qui nous a dit ce qu'il en pensait, éducateur du côté de la Moselle. Alors, le foyer pour les mineurs délinquants, c'est la piste là qu'avance le chef du gouvernement, Gabriel Attal. C'est la visite qu'il fait dans la Drôme. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que c'est la solution? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un petit oui. Oui, 54,9. Non, 45. Enfin, c'est comme si vous disiez, allez, on essaye.
Oui, c'est ça. Non,
on essaye.
T'aurais mis foyer version Légion étrangère d'Antoine. Là, c'était
70-80%.
C'est parce que les gens n'y croient plus, parce qu'ils se disent, ça va être un peu...
Est-ce que tu peux répéter quand on se retrouve
dans ta gueule?
Voilà, devant le légionnaire, sergent Igor, qu'est-ce qu'il dit?
Courva, tu te calmes ou tu prends une tarte dans ta gueule.
Voilà, merci. C'est la Légion étrangère façon Antoine Diers. Dans un instant, une proposition 30 km/h partout en ville. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est au 32-16 que ça se passe.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, on discute, on débat, on vous attend au 32-16. Joël Dagosséry est avec nous, elle est coach de vie. Antoine Diers nous attend aussi aujourd'hui en direct. Il est conseiller auprès des entreprises qui travaillent du côté de Dunkerque. Jérôme Marty, médecin généraliste en Haute-Garonne. Donc nos trois GG pour discuter du 30 km/h en ville.
RMC, les grandes gueules.
Alors c'est la prévention routière qui souhaite pousser le gouvernement. Elle a même lancé une pétition pour obtenir le 30 km/h partout en ville. Il faut savoir que quand aujourd'hui, en agglomération, vous ne voyez pas de panneaux, de facto, la vitesse est à 50.
Oui.
Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les zones 30, qui sont, vous le voyez des fois, autour des écoles, dans des endroits bien précis. À Paris, on est à 60% de la ville, je crois, 65% qui est en zone 30. Est-ce qu'il faut généraliser ces zones 30? 32-16 pour en parler avec les GG. Écoutez Anne Lavaux, elle est déléguée générale de l'association Prévention Routière.
Depuis le début de l'année, la mortalité repart considérablement à la hausse. Que cette hausse de la mortalité est sans aucun doute due à la vitesse, parce que, eh bien, on a un petit peu relâché la sanction autour de la vitesse avec la fin de la suppression d'un point pour ce qui est qualifié de petit excès de vitesse. Et donc, du coup, pour notre association, c'est important de remettre l'emphase sur ce sujet. On a 9 Français sur 10 qui sont d'accord pour mettre des zones 30 autour des écoles, autour des lieux où circulent les enfants.
Alors ça, on a les écoles, d'accord, mais est-ce qu'il faut le faire partout en ville, oui ou non? 32-16 pour le dire au GG, sachant que une étude qui montre qu'il ne faut que 6 secondes de plus sur un trajet, par exemple, si tu prends un trajet d'un kilomètre, il faut que 6 secondes de plus si tu le fais à 30 km/h plutôt qu'à 50 km/h.
C'est même peut-être plus rapide dans une ville, parce que si ça doit diminuer les bouchons, si le fait de ralentir diminue les bouchons, paradoxalement, en roulant moins vite, tu vas gagner du temps. Donc, dès l'instant où dans une ville, tu as 60% de la ville.
Parce que toi, tu es à la fois automobiliste et motard.
Ouais, alors donc, je vais y venir. Mais dès l'instant où dans une ville, il y a 60% du territoire qui est en zone 30, bon, passer à 100%. C'est pas déconnant, hein. Mais c'est vrai que ça peut poser, pour les deux roues, ça pose problème, incontestablement, notamment pour les gros cubes, parce que la conduite de la moto, c'est une conduite dynamique, et qu'à 30 km/h, t'as pas de conduite dynamique, et donc c'est risqué, paradoxalement. Donc
c'est bien un argument de motard, ça.
Non, mais c'est risqué.
Là,
parce
je suis
que
obligé de rouler moins en
équilibre. Voilà, tu es moins en équilibre, c'est plus compliqué, quoi. C'est plus compliqué de rouler très lentement en moto, surtout sur une longue distance.
On va se mettre des petites roulettes.
Voilà, on va mettre des petites roulettes
pour aller en ville.
Mais après, bon, je trouve pas ça forcément déconnant, parce qu'en ville, c'est des petites distances, effectivement, donc tu perds pas énormément de temps. Après, j'entendais un auditeur ce matin sur cette chaîne AMC, ouais. qui en parlait et qui disait assez intelligemment pourquoi aussi ça dépend pas des heures. Parce que la nuit, exactement. Par exemple, à 2h du matin, quand il n'y a personne sur les rues, on peut très bien repasser à 50. Quoi. Mmh. Ça n'a pas d'intérêt de rester à 30. Quoi. Donc on peut faire ça un peu intelligemment, peut-être, pour une fois.
Bah, je suis assez d'accord avec toi sur le côté intelligemment. Moi, je me suis bien calmé au volant, je roule doucement, etc.
Est-ce que tu es sûr que tu es dans les hauts aux 30?
Alors, peut-être pas aux 30, mais voilà. Là, j'ai l'impression que le niveau de liberté, en fait, est raboté à chaque fois. Et donc là, on va nous
parce
prendre...
Parce que tu entends ce que me dit Madame Laveau. Elle reproche, elle dit, la mortalité repart à la hausse parce qu'on a levé la sanction sur les petits excès. Donc, si elle passe à 30, elle attend qu'à ce moment-là, on soit sanctionné et qu'il n'y ait pas de latitude au-dessus de 30, quoi.
Eh ben, je suis prêt à jouer le jeu. À condition qu'on nous donne de nouvelles libertés. C'est-à-dire que sur l'autoroute, la 180. Nuit, on doit pouvoir aller plus vite. Sur une autoroute toute droite, etc. Soyons intelligents. En ville, arrêtons de faire des aménagements qui sont faits pour expulser les voitures, où ça bloque et tout. Ok, je veux bien rouler à 30, mais vous nous faites un truc fluide, avec des feux bien cadencés pour qu'on fonctionne. Et donc, ça doit être du donnant-donnant. On peut pas toujours regarder l'automobiliste en lui disant « Ah, mauvais, on va encore te réduire un peu tes libertés, etc. » Soyons enfin intelligents.
Joël.
Moi, comme je ne conduis pas, je m'en fiche un peu. Je suis piétonne.
Donc tu iras aussi vite que les voitures.
J'ai pas envie de mourir. Si Madame Laveau nous dit que la mortalité repart à la hausse, à ce moment-là, je veux bien l'écouter. Tout ce que je regarde, c'est que moi, souvent, je suis en trottinette électrique, et donc c'est quoi, 20 km/h.
C'est toi qui nous fous la trouille alors.
Bientôt, si je les écoute, ils vont réduire, et finalement, même en trottinette. On ne pourra plus rouler parce qu'on ira encore trop vite. Moi, je regarde la logique qu'il y a derrière tout ça. Je crois qu'il y a une logique d'interdiction générale de la voiture. On va vers ça. Faut qu'ils l'assument. Quand tu regardes ce qu'a fait Madame Hidalgo en nous disant que les SUV, les riverains pourraient garer leur SUV sans payer, etc. Mmh. Et tout d'un coup, qui est revenu dessus en disant que finalement, non, tout le monde va payer.
Avant de revenir dessus.
Donc, on voit bien qu'en réalité, ce vers quoi ils veulent aller et qu'ils n'osent pas, peut-être, c'est interdire la voiture. Oui. Parce que rien n'est fait. Aujourd'hui, tout est fait.
Mais là, c'est la prévention routière. Là, c'est simplement, elle se base sur des chiffres, une augmentation de la mortalité.
Oui, mais elle est soutenue par toute, elle est plus toute seule. Elle est soutenue par toute une frange de la caste politique qui va vers ça. Et comme l'a très bien dit Antoine, tout est fait. Il y a plus rien qui n'est fait dans le sens de plus de liberté pour circuler en voiture. Tout est fait dans le sens de moins de liberté. Et il faut emmerder au maximum l'automobiliste. Donc, enfin, moi, ça me dérange pas. Je conduis pas. Mais quand même, assumez vos positions. Et à ce moment-là, dites centre-ville interdit aux bagnoles. Ouais. Mettez des parkings à l'entrée des villes où est-ce qu'on peut laisser réellement la voiture.
Des bons transports en commun.
Assumez la politique jusqu'au bout, mais là réellement nous faire penser que tu peux t'acheter une voiture et être tranquille en tant qu'automobiliste, c'est faux. Allez jusqu'au bout et mettez les infrastructures nécessaires pour assumer une telle politique. Voilà.
Mais est-ce que ça va pas provoquer un surcroît de pollution? Est-ce qu'en roulant à basse vitesse,
entre 2 et 3,
à 30 km/h, un moteur tourne mal. Donc effectivement, il pollue plus. Quoi.
Alors même si aujourd'hui les moteurs ont évolué, les
hybrides, les électriques,
les pots d'échappement ont évolué, on a les hybrides, les électriques, etc. Tu vois, est-ce que ça va apporter un petit peu plus de pollution? Xavier veut en discuter avec nous. Bonjour Xavier.
Bonjour à tous.
Bienvenue Xavier, vous êtes cadre du côté de Lyon. Ah bah Lyon, là, les bouchons, vous savez ce que c'est. Gastronomique et
les bouchons de Lyon. Ah, dans tous les sens, oui.
Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, du 30 km/h? Est-ce qu'on le généralise?
C'est déjà, par la force des choses, généralisé, je suis d'accord avec Joël. On fait tout pour plus avoir de véhicules. Quand le matin sur Lyon ou le soir, je mets une demi-heure pour faire 4 km, je suis en dessous des 30 km/h.
Ah la vache, ouais. Oui, bien sûr.
Toutes les deux voies, ils les ont réduites à une seule voie maintenant, et une voie des bus. Par contre, la voie des bus est empruntée par des véhicules qui, eux, passent à 70 ou 80 km/h, là où nous, on est presque à l'arrêt, et il n'y a aucun contrôle.
Mais vous pensez, Xavier, vous, aujourd'hui, que c'est délibérément pour nous faire lâcher la voiture, comme le dit Joël, ou pas?
Oui, dans les grandes villes, en tout cas, oui, c'est pour nous faire abandonner la voiture.
Vous pourriez, vous, l'abandonner? Parce que rouler à 30 bornes, franchement, rouler à 30 bornes pour traverser la ville ou la laisser à ce moment-là au garage, prendre des transports en commun, il vaut mieux le faire, c'est moins stressant, vous voyez.
Je pratique le week-end, mais pour aller la semaine pour aller travailler, je suis obligé de sortir de Lyon et faire 40 km, et là, il n'y a pas de transport en commun.
D'accord. Et est-ce que vous ne craignez pas qu'à 30 km/h, ce soit une espèce de piège piège à point ou piège à fric?
Ce qui est certain, c'est qu'à 30 km/h, tu as le nez tout le temps sur ton compteur.
Oui,
tout le temps.
Le matin et le soir, non, parce qu'il y a une circulation tellement dense qu'on
a... Oui, bien sûr, dans les bouchons, évidemment.
Mais en tout cas, je n'ai jamais été contrôlé une seule fois en 32 ans de permis sur Lyon.
Ah oui? Mais il y a des radars, pourtant.
Il y a des radars de feu, mais une fois qu'on sait où ils sont, et puis il suffit de pas griller les feux. Et ça, j'y tiens quand même, hein, respecter les feux.
Oui, bien sûr. Merci Xavier d'avoir été avec nous dans les GG, avec nous dans les grandes gueules. Mais je me demande si l'argument de Mme Lavaux, il tient vraiment sur l'accidentologie. Si à 50 km/h, c'est vraiment un problème d'accident ou pas? Parce que les accidents en ville, il y en a certes, mais c'est pas la majorité des accidents mortels et accidents. Aujourd'hui, c'est sur les morts, c'est sur les départementales et sur les nationales. On a déjà du mal à s'y retrouver en fonction du 80
les jeunes, 90. Les boîtes, l'alcoolisation,
c'est surtout ça.
Non, mais t'as quand même un souci sur les passages piétons. En ville, moi qui suis automobiliste.
Et tu crois que c'est le 30-50?
Eh ben, honnêtement, il y a un paquet d'automobilistes qui, à 50, sont un peu emportés, et toi, t'es là au bord du passage piéton, et en fait, ils ont du mal à freiner. Si tous les automobilistes s'arrêtaient quand il y avait quelqu'un au bord du passage piéton, ça poserait pas de questions, mais là, ils ont du mal à s'arrêter. Peut-être qu'à 30, ils s'arrêtent plus facilement. Et en tout cas, l'impact avec un piéton à 30 fait nécessairement moins de dégâts.
Si les piétons ne traversaient pas à bord des clous, s'il est peut-être...
Vous avez une différence dans l'impact entre 30 et 50 au niveau de...
C'est colossal, oui, bien sûr.
Des dommages, bien sûr.
Antoine, s'ils s'arrêtent pas, c'est dû à la vitesse qu'ils ont un peu apportée. Pour essayer de passer des fois au passage piéton sur Paris, moi je pense qu'il y a aussi des incivilités. Les conducteurs sont aussi incivils que tout le monde, et je crois réellement qu'il y a une sorte de non-politesse à laisser passer le piéton.
Paris,
c'est vraiment l'enfer. Tu sens presque s'il te démarre pas dessus un petit peu, tu sais, pour dire allez plus vite. Moi je crois pas du tout que c'est lié forcément
L'énergie de l'impact, si mes souvenirs de maths sont bons, c'est E égale 1/2 de MV2, donc c'est la masse par la vitesse au carré. Donc évidemment, quand tu réduis la vitesse,
c'est exponentiel.
On a Erwan qui va conclure la discussion, il nous appelle du Morbihan. Bonjour Erwan.
Bonjour Alain, bonjour à toute l'équipe.
Qu'en dites-vous du 30 km/h, mon cher Erwan?
Moi j'en ai marre. J'en ai marre.
Le breton en a marre, pourquoi?
Alors pourquoi? Dans des zones comme les écoles, justement j'ai une école à côté de mon travail, là je trouve ça normal. Par contre, des 30 km/h sur des routes en ville qui sont tout à fait praticables à 50, et que tout d'un coup ça repasse à 30 tous les 100 mètres, et après 50. Et ensuite, des dodanes, parce que c'est sur ce seul, je voulais revenir aussi, qui sont complètement... l'Europe l'a dit, hein, on est complètement hors norme. Donc on est obligé d'être déjà de freiner. On se met en deuxième pour passer à un dodane. On est des spécialistes en France. Moi, c'est pour ça que j'en ai un petit peu marre. Il faut réguler ça. Logiquement, devant les écoles, je suis tout à fait d'accord.
C'est déjà
devant
le cas. Hein.
Tout à fait. Voilà. Devant les endroits dangereux, il y en a plein. Moi, j'ai beaucoup d'usines, donc c'est tout à fait logique. Après, je dirais aussi, c'est les piétons, les cyclistes. Ici en Bretagne, j'ai pas beaucoup de comment on appelle ça, les petites roulettes là.
Les trottinettes.
Les trottinettes, j'en ai pas trop.
Si vous n'avez pas croisé Joël dans le Morbihan, ça je vous le confirme.
Il y en a pas.
Il y a peu de chance.
Je l'invite, il y a pas de souci.
J'ai jamais fait le Morbihan encore.
Il faut, c'est très joli. Mais par contre, c'est les piétons aussi qui sont pas toujours très respectable.
Là, vous avez raison, parce que dans la prévention routière, on pourrait prendre en compte aussi les piétons avec les écouteurs, le nez sur le portable aujourd'hui.
Bien sûr.
Ça, c'est une réalité.
Non,
le comportement.
Le piéton qui se jette sous tes roues,
ça existe. Complètement changé, monsieur.
Le piéton se jette sous tes roues.
Le piéton, de temps en temps, il ferait bien d'aller voir ton copain légionnaire. Toi, portable, traversé, tarte dans la gueule.
Attention quand tu traverses.
Oui, c'est ça.
Non, mais honnêtement, restons sur le principe que le piéton reste prioritaire partout. On est tous nés sur nos deux pieds. Le piéton reste prioritaire partout. Non, mais... Et même s'il traverse en dehors des clous, on s'arrête, c'est tout. Priorité au piéton.
C'est bien beau, mais c'est vrai, moi je reconnais que j'ai souvent le casque, j'ai le portable à la main, et souvent c'est ma fille qui me dit non mais qui m'arrête parce que je suis absorbée dans un SMS ou dans un mail.
Oui.
Et c'est vrai que c'est pas agréable aussi pour l'automobiliste. Enfin, je pense qu'on vit tous, on doit tous être un peu en empathie entre guillemets avec les autres. D'accord. Et c'est vrai que si les gens se comportent comme des rois, je suis le roi. Déjà moi je dis toujours, j'aime pas les cyclistes parce que souvent ils se comportent, je suis le roi.
Donc je respecte pas vraiment.
Voilà, je vais pas moi me dire en tant que piétonne, c'est vrai que je suis la plus fragilisée, c'est vrai, mais je suis la reine, alors tu t'arrêtes partout. Non, je crois qu'on doit vraiment faire attention aussi à nos propres comportements.
C'est bien qu'Erwan ait attiré notre attention justement
Erwan. Et pour finir, il m'est arrivé il y a pas plus de 2 semaines, un piéton justement est sorti d'un buisson, traversé la rue.
Il était seul dans le buisson.
C'était au bois de Boulogne ou
oh, vous savez,
dans le Morbihan, en Margot, il y a des buissons. Il y a beaucoup de, il y a plus de buissons que de population.
Il était ardent. Allez-y.
Donc, vous savez que sur le coup, ça m'a fait très très peur et parce que des conséquences ainsi de suite.
Ouais. Donc, voilà. C'était CTLM, non?
Merci Erwan d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. On verra le nombre. Merci, bonne journée. On verra le nombre de signatures que recueille cette pétition de la sécurité routière, parce qu'il a dit que le développement justement du 30 km/h, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète.
Ah oui.
Aussi. Vas-y, Joël, t'as un commentaire.
Non, mais j'en ai assez des gens. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète. Enfin, à un moment.
Arrêtez de nous dire ce qui est bon pour nous.
Il faudrait savoir.
Il faudrait savoir.
Au début de la discussion,
c'est
bon pour le piéton, pour protéger le piéton. On dit aussi que c'est bon pour la santé et la planète.
En disant que je voulais plus de liberté et que j'étais prêt à réduire si on me réactivait certaines libertés pour comme rouler très vite sur l'autoroute le soir. Donc tout l'enjeu, c'est un enjeu de liberté. Et les gens accepteront les règles, c'est valable pour tout, dans le code de la route et comme ailleurs, si on arrête à chaque fois de raboter leur liberté. Si on met une nouvelle règle, on en enlève une autre. On libère des trucs. Moi, je vois la liberté comme une espèce de stock. J'ai accepté cette société avec un stock de liberté. Si vous m'en enlevez tous les jours, sans jamais m'en rendre ailleurs, il y a un moment, je ne vais plus accepter.
À suivre dans les GG, dans les grandes gueules, justement, parce que tu dis, si on rogne, si on enlève, du côté du gouvernement, on veut rogner sur les conditions d'indemnisation du chômage pour pousser davantage de gens à l'emploi et faire 3,5 milliards d'euros d'économie. Les règles seront fixées en fin de semaine. On a déjà les grandes lignes. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il faut durcir les conditions d'indemnisation? Oui, un oui raisonné pour Antoine et Jérôme, non pour Joël. On vous attend au 32-16.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules qui tout à l'heure auront comme invité à 11h20. Emmanuel Baudin. Emmanuel Baudin, il est secrétaire général et faux justice, c'est-à-dire le personnel pénitentiaire, c'est son secteur d'activité, les surveillants de prison. Parce que je voulais dans les GG qu'on reparle avec les grandes gueules et avec vous, bien sûr, de Mohamed Amrad, ce qu'il pouvait faire dans sa cellule. 9 portables saisis. Il dirigeait son business depuis sa cellule. Il a même fait mener des attaques commando en visio de sa cellule. Il a cherché à acheter depuis sa cellule des armes lourdes. Du type de celles qui ont servi à faire évader, et on se souvient du bain de sang qu'il y a eu la semaine dernière.
Il avait un bracelet all inclusive à l'hôtel.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc il y a quand même des choses, surtout qu'il était sur écoute, c'est ce que révélaient les écoutes. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tenu compte de cette dangerosité quand ensuite on l'a transféré? Bon, enfin, on en parlera tout à l'heure.
A priori, mener une attaque en visio, c'est pas grave.
Peut-être, tu as raison. On a cru que c'était peut-être un jeu vidéo. Chômage, doit-on durcir les conditions d'indemnisation? C'est notre nouveau sujet de discussion avec vous au 32-16.
RMC.
GG, 7 et match.
Concernant l'indemnisation du chômage, en fait, on nous dit que c'est dimanche que le gouvernement va présenter les grandes lignes de sa réforme d'assurance chômage. Alors, un objectif qui est comptable, Ça, vous l'avez suffisamment entendu dire, il faut trouver de l'argent. Il y a des milliards d'euros d'économies à faire. Donc, l'objectif comptable, c'est 3 milliards 600 millions d'euros d'économies à faire. L'autre objectif, c'est le plein emploi. Donc, ça pourrait remettre entre 90 000 et 100 000 personnes au travail. Actuellement, il faut 6 mois d'activité salariée dans les 24 derniers mois pour avoir droit à une allocation chômage. La piste qui est étudiée, ce serait avoir travaillé 8 mois dans les 20 derniers mois. Là, on était, donc je le rappelle, sur 6 pour 24. Là, on fait 8 sur 20 pour pouvoir toucher l'indemnité chômage. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que vous êtes OK pour durcir 32-16 pour en parler avec les GG? Oui, disent Antoine et Jérôme. Non, dit Joël. C'est Joël qui va prendre les 60 secondes. Tu nous dis pourquoi?
Voilà, je dis non pour les mêmes raisons que j'avais évoquées sur les foyers, etc. C'est que il m'apparaît que on lutte contre quelque chose encore une fois, et donc je sais que nous allons droit dans le mur. Je regarde le motif de ce durcissement. On a un motif économique, donc on doit faire apparemment 3 milliards d'économies grâce à cette nouvelle réforme de l'assurance chômage. Et en même temps, on nous dit qu'on a un motif de retour au plein emploi. Eh ben, excuse-moi, je suis désolée, on s'éparpille. C'est pas du tout les mêmes mesures qu'on doit mettre en place pour obtenir l'un et l'autre. Si on part sur le motif économique et parce qu'on a une dette et qu'il faut nous trouver de l'argent, je trouve que 3,6 milliards, ben c'est très peu. C'est très peu au regard de la dette abyssale dans laquelle nous sommes plongés actuellement. Et donc, pour moi, ça, c'est inefficace. Si je pars sur le motif retour au plein emploi, alors là, on est complètement en dehors des clous. Pour moi, un retour au plein emploi, c'est un abaissement des charges sociales, c'est un assouplissement du code du travail, c'est une facilitation de déplacement géographique, c'est une liberté, c'est des libertés en plus. Donc, voilà pourquoi je dis non à cette mesure, parce que pour moi, elle n'apportera rien de concret à notre problème.
Réponse du camp d'en face, Antoine Diers.
Moi, je suis pas un spécialiste du droit social et des organismes paritaires, mais j'ai quand même le sentiment que c'est l'argent des salariés qu'on cotise pour ça, et que certains parviennent à travailler pile le nombre de jours qu'il faut pour se mettre au chômage pendant tant de temps. Moi, ça me paraît un petit peu abusé. Ce sont des salariés qui travaillent pour que d'autres travaillent moins et aient des stratégies d'évitement. Que celui qui a vraiment perdu son emploi, on l'aide, c'est normal. J'ai pu en profiter moi aussi dans certains moments de ma vie. Très bien. Mais évitons de permettre à certains d'avoir une stratégie. Et surtout, le vrai sujet, là où je suis pas d'accord, c'est que si on économise de l'argent sur le chômage en durcissant les conditions d'indemnisation, cet argent, on doit le rendre aux salariés. C'est l'argent des salariés. Et donc, moi, je dis durcissons pour alléger nos cotisations et augmenter les salaires. C'est pas ce que le gouvernement a prévu. Il va l'utiliser l'argent ailleurs. Mais je dirais un grand oui si c'était pour rendre de l'argent aux salariés en allégeant les charges et en leur donnant plus de salaires.
Joël?
Non, sur le fait que des gens profitent du système, c'est bien clair. Mais c'est parce qu'il y a un système qui est mis en place pour profiter. On a choisi le chômage. Et comme on a mis un système en place qui a choisi le chômage, si tout le système, c'est plus facile, si tu fais tes petits calculs, tu te dis, si je reste à la maison, que je me déplace pas, en fait, je suis gagnant. Comment ça se fait que tu peux... Il faut mettre en place un système où tu n'es jamais gagnant quand tu restes à la maison.
Simplement. Donc, faut durcir.
Non.
Pas trop d'options.
Ça te change pas le système. Tu vas toujours avoir des gens qui vont calculer en disant, je peux rester t'en auras peut-être moins. Mais en quoi structurellement, ça te révolutionne le système? Non. Il y a toujours des gens qui resteront à la maison et qui vont.
À mon sens, c'est une symbolique. Encore une fois, d'abord, il y a une élection pas loin. Donc, à chaque fois, on prend comme ça des mesures qui sont des mesures très symboliques. S'attaquer au chômage en faisant passer, travailler 8 mois dans les 20 derniers mois à la place de 6 mois dans les 24 derniers mois, on est dans la symbolique. Mais on est dans la symbolique qui montre, ça y est, on va s'y attaquer. On va s'attaquer à ce totem qui était jusqu'à présent inattaquable. Et ensuite, on prendra sans doute d'autres mesures. La question est, quelles seront-elles? Et je te rejoins tout à fait, c'est pour ça que je suis un peu au milieu du guet dans cette proposition. Je te rejoins tout à fait. Si on veut vraiment baisser durablement le chômage, ça passe par la diminution des charges sociales, ça passe par la diminution de la fiscalité, ça passe par l'aide aux entreprises, ça passe par ces choses-là. Ceux qui emploient, ce sont d'abord les entreprises, ce sont les artisans, ce sont les professions libérales, c'est d'abord eux qui emploient, c'est les PME, etc. Donc ça passe, c'est par là que ça passe plus que par des actions sur le chômage. Ceci étant, on sait tous qu'au sein du chômage, il y a des gens qui abusent, malheureusement. Et peut-être que montrer cette symbolique-là, ça peut commencer à diminuer ces actions-là, quoi.
On entend souvent d'ailleurs, autour de nous, peut-être que même c'est déjà arrivé à certains, dire bon ben là je sais que je peux retrouver où je vais m'accorder un peu de temps, où je vais prendre le temps, où je vais réfléchir, et ça c'est le chômage qui le permet. En même temps, est-ce que c'est vraiment profiter du chômage? Si tu veux, moi je, ben c'est pour ça quand tu dis on reste chez soi, il y a toujours un moment, soit tu le provoques ce chômage, soit tu le subis.
Oui.
Quand tu le subis, tu es dans une position qui est toujours inconfortable socialement, dans ta famille,
ben notamment chez toi, les retrouver au chômage. Notamment les gens qui ont donc, plus de 50 ans, on sait quelle est la difficulté pour les gens de trouver un boulot.
Aujourd'hui, on voit ceux qui ont le plus de mal à trouver du boulot, ce sont
mais là encore faisons
les hommes, ceux qui sont le moins formés, les femmes qui sont le moins formées, qui sortent de période de temps partiel subi aussi.
Mais là encore, Alain, on peut faire aussi les choses intelligemment et les adapter aux difficultés. On sait que pour des classes d'âge, c'est plus dur que pour d'autres. On peut peut-être moduler la loi en fonction de la classe d'âge. Il y a des choses à adapter. Plutôt que faire un espèce de truc tout pareil pour tout le monde, c'est l'échec assuré, quoi.
Antoine.
On traite les symptômes en fait. On a une maladie. La maladie, c'est notre problème d'emploi. C'est-à-dire que c'est pas facile de trouver du boulot, pas facile de trouver du boulot bien payé. Si on allège les charges, que le boulot paye bien, on règle ces problèmes de chômage.
Tu vas pas alléger les charges au moment où tu cherches les cotisations, au moment où tu cherches justement 10, 20, 30 milliards d'euros d'économie.
Mais tu vois, tu mélanges les budgets. Là, c'est un budget social, c'est l'argent des salariés et des employeurs. J'ai dit salariés, c'est pas que les salariés, c'est les employeurs qui financent ça. C'est pas le budget de l'État. L'endettement, il est sur le budget de l'État. Et donc, en fait, t'as l'État qui vient gratter partout, sur tous les budgets annexes, qui fait les poches des caisses de retraite, des avocats, des caisses de retraite de machin, parce qu'il y en a un petit peu plus. Et donc, en fait, cessons de mélanger les budgets. Cet argent du chômage, il est lié au monde du travail. Si on dépense moins sur le chômage, ça doit revenir au monde du travail et ça doit pas servir à aller désendetter l'État. C'est un autre budget.
Est-ce que ça va pas précariser les plus précaires, justement? Est-ce que ça va pas... si tu veux provoquer une nouvelle fois pour les plus faibles une précarisation, les plonger un peu plus dans la précarisation, c'est ce que craignent les syndicats, parce qu'on est là juste sur une espèce de règle comptable, c'est ça qui guide le gouvernement. Donc est-ce que c'est pas les plus fragiles qui vont subir cette réduction là d'obtention des indemnisations,
pas de formation, pas de bagage.
Je pense que oui, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis aussi contre. C'est parce que ce qui va aider justement le retour à l'emploi ou le plein emploi, c'est même sur le plan technologique. Regarde, Monsieur Macron nous a fait une conférence, je crois, il y a pas très longtemps, sur l'IA, où il a dit on va former les petits jeunes à l'IA, on va faire des formations dès la primaire, etc. Enfin, on est complètement à la ramasse.
Oui.
Complètement à la ramasse. Il nous parle de petites formations par-ci, par-là, peut-être des livrets sur l'IA, alors qu'on est déjà à la ramasse sur cette technologie-là. On n'est pas les producteurs ou les concepteurs, on est juste les consommateurs d'IA. Et il nous dit, il nous pond ce programme, entre guillemets. Donc, tu vois bien que ça va être encore une source de chômage dans 5 ans, dans 10 ans, etc.
Vous inquiétez pas, dans un instant, on a des témoignages.
Il faut parler d'Albert. Je vous rappelle que quand même, ce gouvernement a mis en place une intelligence artificielle qui s'appelle Albert, qui vise à agir à la place des fonctionnaires pour tout ce qui est fonction publique.
Et ben justement.
Donc on voit bien qu'en même temps, on réduit le temps pour l'emploi, mais on démolit des emplois en remplaçant des métiers par
Durcir
Albert.
Durcir les conditions d'indemnisation, Joël dit non, Antoine et Jérôme disent oui. Quelle équipe va l'emporter? Je sais qu'il y a du monde qui arrive au 32-16 pour témoigner, pour discuter, pour débattre. On voit ça dans un instant.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.